Un journal présenté par Jeanne Serrin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Oumi, bonjour à toutes et à tous. La fin se rapproche. Les autorités espagnoles confiantes face aux incendies qui ravagent le pays depuis 2 semaines. Quelles leçons tirées de cet épisode? Nous serons en Espagne dès le début de ce journal. Israël victime d'antisémitisme. La réponse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après l'annonce de l'ONU de déclarer l'état de famine à Gaza. Dans ce journal, vous entendrez aussi la réaction de l'historien Vincent Duclerc après le non-lieu prononcé contre Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Hutu assassiné en 1994. Enfin, le soulagement des associations LGBT, les archives sur l'orientation sexuelle des donneurs de sang bientôt supprimées. On y revient à la fin de ce journal. Le pire est passé. En Espagne, les autorités optimistes face aux incendies. Il ne reste plus grand-chose, a déclaré ce midi la directrice générale de la protection civile dans le pays. Alors que depuis 2 semaines, le pays est ravagé par les flammes, faisant au moins 4 morts et des milliers d'hectares brûlés. Au nord-ouest, la province de León, la plus touchée avec celle d'Orense en Galice, plus de 70 000 hectares ont brûlé depuis le 9 août. Et sur place, déjà se pose la question de l'après. Quelles leçons tiré de cette vague d'incendie la plus grande jamais connue dans le pays. Plusieurs pistes se dessinent. C'est un reportage de Solène Delarquier.
Les fumées sont encore visibles dans le ciel au-dessus de Ponferrada. La ville a été encerclée par 2 incendies géants. C'est un moment de bascule historique, estime le maire de la ville, Marco Morala.
On parle d'un incendie de 6e génération. Ils s'auto-alimentent et ne peuvent pas s'arrêter comme des feux classiques. Il faut donc travailler aussi bien sur la prévention qu'apprendre à défendre de possibles futurs incendies qui font partie de notre nouvelle réalité.
Un collectif citoyen Stop Incendie a été créé cette semaine et organise des manifestations quasi quotidiennes. Ses membres dénoncent une réponse trop lente des autorités régionales et les querelles politiques. Adam Luis Fernandez, membre du collectif, souhaite la création d'une instance dédiée.
Les politiques doivent s'organiser et quand survient une catastrophe de ce genre, ils ne peuvent pas passer une semaine à se rejeter la faute entre un parti et un autre. Ils doivent se réunir, mettre en place une commission avec toutes les autorités, gouvernement central, gouvernements autonomes, municipaux, etc.
Pour lui, le monde paysan doit aussi faire partie de la solution.
Pour pouvoir entretenir les forêts, débroussailler les zones, aider aussi les habitants des villages et des montagnes en leur donnant des subventions pour qu'ils puissent réinvestir ces zones abandonnées et qu'elles ne brûlent pas.
Le collectif citoyen demande également plus de moyens pour les pompiers forestiers. Les manques sont criants, constate Sergio Fidalgo, pompier dans le canton de Berceau.
On vient juste de rentrer d'une intervention sur l'incendie d'Iguena. Et là-bas, comme dans les différents endroits où on a été mobilisé, on a vu la désorganisation totale au niveau des moyens.
Contrairement aux autres régions espagnoles, en Castille et León, près de la moitié des pompiers forestiers travaillent dans le secteur privé.
On doit se professionnaliser, on ne peut pas dépendre d'entreprises privées et encore moins à bas coût. On doit être un corps public formé parce que notre formation ici en Castille et León, c'est un cours de 16 heures et ensuite on nous envoie sur les incendies.
Avec des contrats souvent saisonniers.
On ne peut pas travailler seulement 4 mois, surtout si c'est pour toucher entre 1200 et 1400 euros.
Il estime que travailler à l'année donnerait du temps pour la prévention, sensibiliser sur le débroussaillage par exemple.
Solène Delarquier, en plus de l'Espagne, 3 autres pays de l'Union européenne, Chypre, l'Allemagne et la Slovaquie, ont battu des records cette année avec des milliers d'hectares partis en fumée. Les ONG alertaient depuis des mois, c'est désormais officiel. L'ONU déclare l'état de famine pour qualifier la situation à Gaza. D'après le rapport des Nations Unies rendu hier, 500 000 personnes souffrent de cette crise alimentaire. Une situation qui devrait s'empirer, prévient l'ONU, et s'étendre au sud de l'enclave. Un mensonge éhonté, répond Benjamin Netanyahou, qui ignore les efforts humanitaires d'Israël, estime-t-il. Estimant aussi que son État est victime de préjugés antisémites, des accusations régulières. Régulièrement invoqué par le gouvernement israélien, rappelle Hasni Abidi. Il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Il sait que l'image de son gouvernement et l'image d'Israël est abîmée à l'étranger et que finalement brandir l'antisémitisme est pour lui le dernier ressort pour éviter à la fois des critiques à l'international, mais aussi des pressions. On l'a bien vu avec ses reconnaissances après la conférence à New York, et c'est pourquoi la relation est très tendue avec Paris, parce que le président Macron a réussi un exploit non négligeable, celui de remettre la question de la centralité palestinienne, de la solution à deux États. Et surtout, ce qui l'intéresse, c'est ne pas arriver justement à ce que ces conclusions, ces conséquences n'arrivent pas à Washington, n'arrivent pas aux États-Unis, soit au niveau du Congrès, soit au niveau de l'administration américaine. En dehors des États-Unis aujourd'hui, qui peuvent vraiment exiger l'ouverture de tous les points de passage, il est très difficile d'espérer un changement de situation.
Hasni Abidi, interrogé par nos confrères de France Info, Benjamin Netanyahou, qui n'a d'ailleurs toujours pas répondu directement à la proposition des médiateurs en vue d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. De son côté, l'armée israélienne intensifie son offensive dans la bande de Gaza. Le siège de la ville de Gaza a commencé. Dans les territoires palestiniens, la population, elle aussi, s'inquiète de son isolement. Alors que Starlink, le réseau satellitaire propriété d'Elon Musk, a commencé à se déployer en Israël, le milliardaire américain a décidé de priver les territoires palestiniens de cette couverture. Sur place, les Palestiniens n'ont donc accès qu'à un réseau 3G. La correspondance à Ramallah d'Alice Moreno.
Si le centre-ville de Ramallah dispose d'une bonne couverture réseau, c'est beaucoup moins le cas dans les quartiers périphériques et ailleurs en Cisjordanie. Tarek agite son téléphone, visiblement agacé.
Le service, les communications en général sont très faibles. Soit l'électricité est coupée à cause de l'occupation, soit les opérateurs ne diffusent pas, ce qui rend la connexion Internet et les communications très lentes et pénibles. Autrement dit, si nous sortons de Ramallah, Internet et les appels sont parfois inexistants.
Depuis les accords d'Oslo, conclus dans les années 90, c'est Israël qui a la main sur les ondes et fréquences en Cisjordanie, comme le rappelle ce jeune étudiant en ingénierie informatique.
Nous n'avons aucun contrôle sur le réseau ici. La décision ne nous revient pas. Nous n'avons que la 3G, alors que partout dans le monde actuellement, il y a la 4G, mais ici, elle est interdite jusqu'à présent parce que les autorités israéliennes ne veulent pas en entendre parler, tandis qu'eux ont la 5G.
Il n'est pas étonné une seule seconde par la décision d'Elon Musk de priver les Palestiniens du service satellitaire Starlink.
Sa décision est attendue car il considère que n'importe quel bénéfice, n'importe quel progrès pour le peuple palestinien peut représenter un danger pour les Israéliens.
S'il n'est pas surpris, il dénonce toutefois une décision injuste qui isole toujours un peu plus les Palestiniens du reste du monde.
Alice Moreno pour France Culture. La guerre à Gaza qui met aussi sous pression les pays européens. Aux Pays-Bas, le ministre des Affaires étrangères annonce sa démission. Caspar Welkamp souhaitait prendre des mesures plus efficaces pour sanctionner Israël. Mais les discussions au gouvernement ont échoué, d'après lui. Tous les ministres de son parti l'ont suivi dans sa décision et sont également partis. Les explications à Bruxelles de Lakshmi Lotha.
Je rentre chez moi et je vais rédiger ma lettre de démission. C'est avec ces mots que Caspar Welkamp quitte le Conseil des ministres hier soir, visiblement déçu de la tournure des débats au sein du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères voulait prendre des mesures significatives à l'encontre d'Israël, des sanctions en réponse à la violence déployée à Gaza, à la crise humanitaire et à la politique de colonisation de la Cisjordanie. Mais ses partenaires de coalition prônent une ligne moins stricte envers Israël. Ancien ambassadeur à Tel Aviv entre 2011 et 2015, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire estime que ses compétences sont trop limitées pour pouvoir exercer sa fonction. « Nous ne sommes pas crédibles si nous restons », dit Caspar Welkamp. Tout le parti NSC l'a suivi dans cette démission, 4 autres ministres et 4 secrétaires d'État. Le premier ministre néerlandais Dick Schoof a déclaré regretter profondément ce départ. Pour lui, tout le monde était prêt à faire des concessions pour sanctionner Israël.
Au Texas, le redécoupage de la carte électorale définitivement adopté, poussé par le président américain Donald Trump. Ce changement devrait être favorable aux républicains. Il pourrait leur permettre de récupérer 5 sièges supplémentaires au Congrès de Washington lors des prochaines élections de mi-mandat l'année prochaine. Donald Trump, qui s'inquiète de perdre sa majorité lors de ce scrutin, et fait pression pour que d'autres États changent aussi leur carte électorale. C'est une aberration pour les uns, une décision surprenante pour d'autres. Après la révolte du collectif des partis civils pour le Rwanda, l'historien Vincent Duclerc prend aujourd'hui la parole suite à la décision de 2 juges d'instruction parisiens d'ordonner un non-lieu concernant Agathe Habyarimana, la veuve du président rwandais. Assassinée en 1994, l'élément déclencheur du génocide, est accusée entre autres d'avoir eu un rôle majeur dans l'organisation du génocide des Tutsis. Les magistrats ont quant à SAE estimait que les charges étaient insuffisantes et qu'Agathe Abiyarimana, qui réside en France, était une victime de l'attentat terroriste dans lequel ont été tués son mari et une partie de sa famille. Sans vouloir commenter une décision de justice avant que la procédure soit close, l'historien Vincent Duclerc, auteur d'un rapport accablant sur l'implication de la France dans le génocide, s'interroge sur cette décision au vu des faits historiques.
En ce qui concerne Agathe Abiyarimana, les documents d'archives où nous collectons montrent sa très forte implication dans le génocide des Tutsis, dans sa préparation, comme étant, comme son frère Proté, alias Monsieur Z, le cerveau du réseau Zéro, c'est-à-dire l'état-major secret chargé de l'extermination des Tutsis. Mais son implication l'est aussi dans le déclenchement du génocide. Les analyses les plus nombreuses et convergentes attestent que l'attentat dirigé contre l'avion de son mari, le président Abiyarimana, est l'œuvre du réseau Zéro, soit directement, soit en tant que commanditaire. Cet attentat déclenche dans les heures qui suivent, le 6 avril dans la nuit, la phase paroxystique du génocide, dans laquelle Agathe Abiyarimana est également très impliquée. Certes, elle est évacuée de Kigali le 9 avril par les forces françaises sur ordre express du président François Mitterrand. D'autres documents attestent de son activisme lors de son asile français, aux côtés des génocidaires agissant au Rwanda, en lien avec le mercenaire Paul Baril, dont le dossier est lui aussi très chargé. Ces faits établis sont-ils connus des magistrats instructeurs? Je ne sais pas. Toutefois, un complément d'enquête semble clairement s'imposer.
L'historien Vincent Duclerc, interrogé par Erwan Chassin. Il restera finalement jusqu'à lundi. Manuel Valls prolonge son séjour en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer a échoué à faire revenir le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste à la table des discussions. Déterminé à y parvenir, il entend poursuivre le processus engagé début juillet avec l'accord de Bougival et continuer les consultations, convaincre aussi les Calédoniens. C'est aussi son objectif qui est parti. Manuel Valls qui est parti ce matin à leur rencontre sur un marché de Nouméa, reportage de Charlotte Menvy.
Après un débat citoyen de près de 2 heures la veille, voilà Manuel Valls entre les étals d'oranges et de crevettes, prêt à défendre l'accord de Bougival, et le ministre ne tarde pas à être interpellé.
J'ai quelque chose à vous dire, j'espère de tout cœur que l'État sera ferme. Je suis Caldoche, ma terre c'est...
Éric est pêcheur, il aspire au vivre ensemble, oui, mais dans la France. Gustave vient, lui, du fief indépendantiste de Saint-Louis et voit un horizon bien différent pour la Nouvelle-Calédonie.
Plus ou moins un jour ou l'autre, dans les 50 ans à venir, 60 ans à venir, je pense qu'on sera indépendant.
L'accord de Bougival est censé trouver un équilibre entre ces deux aspirations. Mais en l'absence du FLNKS, a-t-il seulement un avenir? Impossible à dire, car politiquement, les violences de 2024 ont rebattu toutes les cartes. Alors Manuel Valls le sait, le mieux serait de ramener le mouvement indépendantiste dans le jeu. Il se dit donc prêt à recevoir le FLNKS, y compris son président Christian Théin, sous contrôle judiciaire dans l'Hexagone.
Par visio ou directement, on le fera avec le président du FLNKS et avec une délégation, évidemment à condition que ce soit pour construire.
Une rencontre qui devrait avoir lieu avant lundi prochain, date de départ du ministre.
Les archives sur l'orientation sexuelle des donneurs de sang vont être supprimées. Voilà ce qu'annonce l'établissement français du don du sang. Depuis 2022, être un homme et avoir des relations homosexuelles n'est plus une contre-indication au don. Mais pendant quelques années auparavant, cette information a été collectée et archivée. Bonjour Savannah Ruellan.
Bonjour Jeanne.
Ce ne sera donc désormais plus le cas.
En effet, l'EFS ne demande plus leur orientation sexuelle aux potentiels donneurs, comme ce fut le cas de 1983 à 2016. Mais les dossiers de cette période restent. C'est pourquoi des donneurs ont interpellé Sarah Lou Gerber, directrice générale déléguée de l'établissement français du sang, au sujet de ces dossiers affublés de la mention HSH pour homme ayant eu des relations sexuelles avec un homme. Madame Gerber a estimé qu'il n'était plus utile et que cette mention pouvait être supprimée des fichiers de l'établissement.
Si la personne a donné son sang par le passé et qu'elle a eu des épisodes de contre-indication pour ce motif, nous allons supprimer l'événement associé à cet ajournement. Donc on conservera bien évidemment le dossier du donneur, parce que si la personne a donné son sang, on a besoin de la connaître et d'avoir une traçabilité. En revanche, disparaîtra de son historique tout élément pouvant faire référence à cette contre-indication liée aux relations sexuelles.
L'enjeu de cette suppression, c'est donc que les donneurs homosexuels redeviennent des donneurs comme les autres. Une victoire pour Maurice Etienne, fondateur du média Similicuir, qui a largement relayé la pétition demandant la suppression de cette mention.
Ça peut paraître peut-être anecdotique pour certains, mais en fait, ça n'est pas du tout. Ça rappelle des moments assez sombres de l'histoire de garder des données comme ça sur des minorités. Pour moi, de ce que je m'imaginais, il n'y avait pas forcément de fichiers qui retraçaient les homosexuels. Et je pense que c'est aussi pour ça que la pétition a rapidement prise sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, personne n'avait conscience de ça et l'information en soi était choquante.
La pétition lancée fin juillet par l'association Toust sur Instagram a recueilli plus de 15 000 signatures.
Les explications de Savannah Ruelan. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo pour cet après-midi. Du soleil sur une large partie de la moitié sud, un ciel voilé sur le nord. Quant aux températures, elles seront fraîches dans la moitié nord, 20 degrés à Dunkerque, 23 à Paris. Température en hausse dans le sud. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Brice Garcia à la technique, Olivier Arnay.